Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui. Édition du mardi 23 juillet 2019 en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, les forces de défense et de police ont lancé hier un assaut à la prison centrale de Yaoundé à la suite d'une mutinerie.
Au Mali, une attaque au véhicule piégé à l'entrée de la base française de Gao a fait 3 blessés hier.
Au Nigeria, de nouvelles tensions avec la minorité chiite ont fait au moins 7 morts hier à Abuja, la capitale.
Ici à Washington, le président Donald Trump a estimé hier qu'il devenait plus difficile pour lui de vouloir négocier avec l'Iran.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, situation confuse hier soir à la prison centrale de Yaoundé où les forces de défense et de police ont lancé un assaut suite à une journée de grogne des détenus, parmi lesquels des séparatistes anglophones et certains militants du RMC, un parti de l'opposition. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Julmtap.
Peu avant 20h temps universel, les forces spéciales ont lancé l'assaut contre les prisonniers installés dans la cour principale depuis les premières heures de la journée. S'en est suivi des tirs de balles et de gaz lacrymogènes dans l'enceinte de la prison. Il y a eu des tirs de sommation pour faire rentrer les prisonniers dans leurs cellules, a confié sous anonymat une source de sécurité. Des flammes ont été également aperçues provenant de l'intérieur du centre pénitentiaire. Certains compartiments de la prison ont été saccagés par des prisonniers ainsi que des cellules où se trouvent certains anciens hauts dignitaires incarcérés pour des affaires de détournement de fonds publics. Des actes de vandalisme diffusés en live sur les réseaux sociaux par les prisonniers. Une heure après l'assaut, des unités spéciales des forces de défense et de sécurité, des sources médicales ont fait état des blessés. Il s'agit des prisonniers, a confié une source sous anonymat. Lundi matin, des personnes interpellées en zone anglophone et actuellement en détention à la prison centrale de Yaoundé ont entamé une grogne pour demander leur libération immédiate et protester contre leur ration alimentaire. D'autres détenus du MRC, un parti de l'opposition, se sont joints à ce mouvement. Le gouvernement n'a pas encore officiellement communiqué sur la situation, mais après le retour progressif au calme, les autorités, le ministre de la Défense et le patron de la gendarmerie sont arrivés tard dans la nuit à la prison centrale de Yaoundé. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la démission du ministre de la Santé, Oli Ilunga, continue de susciter des interrogations. Hier, le docteur Ilunga a donné comme raison la décision du président Félix Tshisekedi de s'appuyer sur une équipe d'experts dans la lutte contre cette épidémie. Il a évoqué aussi le refus de l'expérimentation d'un second vaccin. John Linden fait le point.
Le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, estime avoir été désavoué par la décision du président Félix Tshisekedi de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué 1737 personnes en un an dans l'est de la RDC. Jusque-là, un seul vaccin fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck a été autorisé pour être utilisé dans la riposte contre Ebola, soulignait lundi le bulletin du ministère de la Santé en indiquant qu'environ 170 000 personnes ont été vaccinées. Selon son entourage, le ministre Ilunga s'était opposé dans une circulaire à l'introduction du deuxième vaccin produit par le laboratoire belge Janssen, filiale de l'américain Johnson & Johnson. Dans sa lettre de démission, le docteur Oli Ilunga révèle qu'il serait illusoire de croire que le nouveau vaccin proposé par des acteurs qui ont fait preuve d'un manque d'éthique manifeste en cachant volontairement des informations importantes aux autorités sanitaires puisse avoir une incidence déterminante sur le contrôle de l'épidémie en cours.
Un Français d'origine turque aux antécédents psychiatriques a été interpellé lundi matin, moins de 72 heures après l'agression mortelle du jeune universitaire guinéen Mamoudou Bari, près de Rouen. Ce crime a suscité un vif émoi en France pour son caractère présumé raciste. Le suspect a été hospitalisé. Dans la soirée, le procureur de Rouen a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Les faits ont eu lieu vendredi, peu avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal. Certaines personnalités et associations associations pointaient du doigt à tort la communauté algérienne.
Au Mali, un véhicule piégé a explosé lundi à l'entrée de la base, la vaste base militaire française de Gao, dans le nord-est du pays, faisant 3 blessés, français et estoniens, a annoncé le porte-parole de l'état-major français des armées. Le camp de Gao est partagé entre la force française anti-djihadiste Barkhane, la force de maintien de la paix des Nations Unies et les forces armées maliennes. Selon une source sécuritaire malienne à Bamako, il y avait au moins 3 kamikazes dont dans le véhicule piégé qui était peint aux couleurs des véhicules de l'ONU.
Au Nigeria, au moins 6 manifestants chiites et un policier ont été tués hier dans des heurts à Abuja. Il s'agit d'un nouvel épisode de violence entre membres de ce groupe religieux et les forces de l'ordre. Abdourahmane Dia.
Selon Abdullahi Mohamed Bello, un membre de l'organisation chiite, les manifestants marchaient sans violence et arrivaient au niveau du ministère des Affaires étrangères. La police a commencé à tirer en l'air et sur la foule. Il dit avoir vu 6 corps, dont celui d'un mineur. La police a commencé à sortir en nombre et à tirer des gaz lacrymogènes et les manifestants ont riposté en lançant des cocktails Molotov et ont mis le feu à des véhicules de pompiers, a indiqué pour sa part un photographe de l'AFP. Un haut gradé de la police a été tué dans les heurts avec les chiites à Abuja, selon l'agence de presse nationale, qui a ajouté que le policier Omar a été tué par les manifestants en tentant d'empêcher les actions violentes et la destruction de biens. Le porte-parole de la police, Frank Komba, a publié un communiqué pour demander aux habitants d'Abuja, la capitale fédérale, de rester calme. Amnesty International a aussitôt réagi, appelant les autorités à ne plus réprimer les manifestations chiites dans le sang. Les chiites demandent la libération de leur chef Ibrahim Zakzaki, détenu depuis décembre 2015.
En Gambie, un militaire a accusé hier l'ancien président Yahya Jammeh d'avoir ordonné l'assassinat il y a 15 ans du journaliste Deida Haidara et reconnu avoir directement participé à l'assassinat de l'ex-correspondant de l'AFP. C'est ce qu'a affirmé le lieutenant Malik Diatta devant la commission Vérité et Réconciliation.
Au Kenya, le ministre des Finances, Henry Rotich, et plusieurs responsables de son ministère ont été arrêtés hier pour corruption et fraude en lien avec un projet de construction de 2 barrages d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Les précisions d'Irene Herman Ungbo.
C'est le directeur des poursuites publiques, Nourdin Hadji, qui a demandé l'arrestation et l'inculpation du ministre Henry Rotich et de 27 hauts responsables administratifs pour fraude, abus de pouvoir, irrégularité financière et autres crimes économiques. Ils sont en détention et attendent d'être emmenés devant un tribunal, a déclaré le chef de la police kenyane, George Kinoti. Nous cherchons les autres et ils iront tous au tribunal, a-t-il ajouté. Selon Hadji, la conception du projet, l'obtention du marché et le processus de paiement de la construction des 2 barrages sont criblés d'irrégularités. Le coût total du projet serait de 450 millions de dollars, mais le ministère des Finances l'a augmenté de 164 millions sans justification adéquate. 180 millions de dollars ont déjà été versés sans que la construction n'ait commencé. 6 millions de dollars avaient aussi été affectés à la relocalisation des riverains touchés par le projet, mais aucune preuve n'a été trouvée que des terrains ont été effectivement achetés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a minimisé hier la portée de l'audition demain en direct à la télévision au Congrès du procureur spécial Robert Mueller en la qualifiant de perte de temps. Les démocrates, eux, vont tenter d'arracher à M. Mueller des déclarations préjudiciables au président américain. « Je ne regarderai pas Mueller », a affirmé M. Trump. M. Mueller était chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Le chef de l'exécutif américain a répété « Il n'y a pas eu de collusion ni d'obstruction ». Mais pour les démocrates, les conclusions du procureur spécial laissent la porte entrouverte à des suites.
Des dizaines de milliers de protestataires ont envahi hier la principale artère de la capitale de Porto Rico, exigeant la démission du gouverneur Ricardo Rosselló suite à la publication du contenu de plusieurs conversations entre lui et plusieurs autres hauts responsables locaux. Leurs propos ont été jugés désobligeants, misogynes et homophobes. Le gouverneur a annoncé sa démission de la direction de son parti et ne va pas briguer un autre mandat en 2020, mais les protestataires insistent sur sa démission immédiate.
Le président Trump a dit aux journalistes hier à la Maison-Blanche que Washington était prêt, je cite, concernant l'Iran, pour le pire absolu. Il a ajouté que ce pays est le premier des États soutenant le terrorisme. M. Trump estime que cela devenait plus difficile pour lui de négocier avec Téhéran à cause des actions des Iraniens et de leur manque de respect. Pour sa part, l'Iran a annoncé le démantèlement de ce qu'il a appelé un réseau d'espions iraniens de la CIA et la condamnation à mort de certains des 17 suspects. M. Trump et le secrétaire d'État Mike Pompeo ont démenti les allégations iraniennes.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La compagnie nationale libyenne de pétrole, NOC, a annoncé ce lundi la reprise des exportations depuis le terminal pétrolier de Zawiya et de la production sur le plus grand champ pétrolier du pays, suspendu après le sabotage d'un pipeline. La production des champs pétroliers de l'ouest de la Libye est régulièrement arrêtée en raison de blocages imposés par des milices qui font office de garde des installations pétrolières pour réclamer des rémunérations ou pour des motivations politiques. La NOC avait conditionné la reprise de la production au départ des groupes armés du champ pétrolier, ce qui a eu lieu début mars. Le Nigeria et la société allemande Siemens ont convenu d'une feuille de route pour augmenter l'approvisionnement en électricité du Nigeria à 7000 MW d'énergie fiable à 2021 et atteindre 11000 MW d'ici 2023. Selon le président Muhammadu Buhari, à l'heure actuelle, seulement 4000 MW en moyenne atteignent de manière fiable les consommateurs nigérians. Pour finir, le Zimbabwe a augmenté les prix du carburant hier, soit la deuxième fois en l'espace d'une semaine. Selon l'autorité zimbabwéenne de régulation d'énergie, un litre d'essence coûte désormais 7,45 $ zimbabwéens, soit une hausse de 22%. Le litre du diesel coûte désormais 7,19 $ zimbabwéens, soit une hausse de 23%. Les prix du diesel et de l'essence ont augmenté de 456% cette année, parallèlement à la baisse de la valeur de la devise RTGS locale, renommé le dollar zimbabwéen le mois dernier.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Un récent champion d'Afrique signe en Ligue 1 en France.
Le milieu de terrain algérien Mehdi Abed a rejoint le FC Nantes jusqu'en 2022. C'est un très bon club du championnat avec une grande histoire. J'espère pouvoir faire une bonne saison et de belles choses ici, a déclaré le joueur de 26 ans cité dans le communiqué du 12e du dernier championnat de France. Mehdi Abed est arrivé libre de tout engagement en provenance de Dijon. L'international aux 11 sélections avec les Fennecs a été formé au RC Lens. Dans sa carrière, il a aussi joué en Angleterre à Newcastle, en Écosse au St Johnstone Football Club, en Grèce au Panathinaikos Athènes, avant de rejoindre Dijon en 2016.
Nabil Fekir, lui, a pris la direction du Betis Séville.
Sauf coup de théâtre, ce sera le Betis Séville pour Nabil Fekir, a indiqué Olivier Blanc, chargé de la communication de l'Olympique Lyonnais. Hier, le Lyonnais est parti en Andalousie pour passer sa visite médicale. L'indemnité de transfert serait légèrement supérieure à 20 millions d'euros et pourrait s'assortir d'une dizaine de millions d'euros de bonus, ainsi que d'un pourcentage à la revente de 20%, selon le journal L'Équipe. La transaction inclut aussi le jeune frère de Fekir, Yacine, 22 ans, joueur de la réserve lyonnaise, que le Betis va chercher à prêter à une équipe de deuxième division espagnole, selon Marca.
Antoine Griezmann se retrouve au Barça.
Oui, l'attaquant français, nouvellement transféré de l'Atlético Madrid au FC Barcelone, a déclaré qu'il était impatient de débuter avec les Blaugrana, ajoutant que son cœur est désormais avec ses nouveaux coéquipiers. « Je me concentre sur mon intégration parmi les joueurs de Barcelone. Mon cœur est ici avec eux », a-t-il affirmé à Tokyo, où le Barça est actuellement en tournée. Pour faire venir le champion du monde français, le Barça a payé sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Mais le club madrilène conteste ce montant et réclame un total de 200 millions d'euros.
Entorse à la cheville gauche pour Luis Nice, Gustavo.
Le milieu brésilien de l'Olympique de Marseille souffre d'une entorse à la cheville gauche et sera indisponible pendant 2 semaines. Malheureusement, c'est la 2e blessure à la cheville pour l'équipe, a regretté l'entraîneur André Villas-Boas après la victoire de son équipe contre Saint-Étienne 2-1 dimanche ici à Washington. En finale des EA League 1 Games, un tournoi amical pour la promotion du football français aux États-Unis, Luis Gustavo s'est blessé sur un tacle du Stéphane Zaidou Youssouf, averti et a été remplacé par Morgan Sanson. L'OM reprend la Ligue 1 le 11 août contre Reims. Il y a une semaine, l'ailier Florian Thauvin s'est lui aussi blessé à la cheville droite lors d'un match amical perdu chez les Glasgow Rangers 4-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, a démissionné de ses fonctions 2 jours après la décision du président Félix Tshisekedi de prendre personnellement en main la coordination de la lutte contre Ebola. Le président congolais a mis sur pied une nouvelle équipe d'experts pour mener à bien cette lutte, alors que l'épidémie a déjà fait plus de 1700 morts en 10 mois. Que signifie la décision du ministre? Eddie Isango a joint à Beni le directeur du journal Les Coulisses, Nikese Kibel Beloka.
Il faut d'abord partir des résultats qui sont mitigés. Vous savez que la maladie a pratiquement dépassé les 1500. Nous sommes autour de 1700 déjà cas de décès. Et avec l'évolution de la maladie, c'est qu'on a retrouvé au niveau de Goma. Naturellement, le chef de l'État devait avoir plus d'éclaircissements. Ce qui fait que aussi l'expert mondialement reconnu qui est le virologue Dr Muyembe qui dirige l'INRB, l'Institut National de Recherche à Kinshasa, n'a pas vraisemblablement apprécié la manière avec laquelle la riposte est menée. Il a quitté le terrain, il est retourné à Kinshasa et naturellement le chef de l'État l'a contacté, il a fait des propositions qui ont abouti à la mesure prise par le chef de l'État, ce qui n'a pas plu au ministre de la Santé. Nous espérons que c'est comme ça que les choses se sont passées.
Dans sa lettre, le ministre parle d'éviter la cacophonie. Apparemment, il veut éviter une confrontation avec le président de la République. Mais quelles peuvent être les conséquences de sa démission alors?
D'emblée, il n'y a pas de conséquences. Il est anormal que le docteur Muyembe, qui est reconnu mondialement et qui a presté au niveau du Libéria, qui a formé des équipes au Libéria et en Sierra Leone, soit spectateur dans son propre pays. Si on veut tenir à sauver la population, le ministre de la Santé qui a œuvré sur le terrain devra faire une remise reprise en bonne et due forme et faire un état des lieux de ce qu'ils ont déjà fait, si on tient à sauver la population. Mais si on entre dans des querelles politiques, bien sûr, il y aura des conséquences. Mais à première vue, il n'y a pas de conséquences, sauf si la politique s'y mêle.
Le ministre se montre réticent par rapport à l'un des vaccins. Il semble qu'il y ait autre chose qui se cache derrière. D'aucuns parlent peut-être d'argent, d'une affaire de gros sous. Qu'en est-il exactement, vous qui êtes sur terrain?
D'abord, ce qui est plus important dans cette restructuration, c'est que l'équipe qui est mise en place ou qui doit remplacer l'équipe du ministre de la Santé, c'est une équipe composé des plus grands spécialistes mondialement connus. Au niveau technique, nous pensons que cette équipe vient corriger certaines failles parce que l'équipe Dr Muyembe, pour ne pas les citer, a parlé de certaines failles, a parlé d'une mauvaise approche. Il a même donné l'exemple de l'équipe qui ne gagne pas, on ne doit pas la reconduire. Bien sûr, il y a beaucoup de paramètres, notamment, vous parlez de l'appropriation de la population. Si l'équipe n'arrive pas à convaincre la population, si la population ne se l'approprie pas, et effectivement, il y aura encore échec. Et c'est ce qui ne se comprend pas. Est-ce que c'est lié aussi au problème de la mauvaise gestion? Parce que sous d'autres cieux, notamment en Sierra Leone et au Libéria, les choses sont allées assez vite quand finalement l'Organisation mondiale de la santé a pris les choses en main.
Joint à Beni, le directeur du journal Les Coulisses, Nikese Kibel Beloka.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Tchad, le CNDP, cadre national de dialogue politique, divise les partis politiques de l'opposition. Au cours d'une rencontre tenue le week-end dernier, chaque responsable des regroupements et des partis non regroupés voulait avoir son représentant. La situation a dégénéré en une altercation, y compris un échange de coups de poing entre certains participants. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Cette ambiance n'est pas celle des étudiants dans un amphithéâtre, mais plutôt du quartier général du chef de file de l'opposition tchadienne. Par manque de consensus, les responsables des partis politiques de l'opposition, convoqués suite à l'injonction du président Déby, de choisir dans 48 heures leurs représentants pour le renouvellement du bureau du CNDP dont le mandat des membres actuels arrive à terme, ne se sont pas entendus sur le mode de désignation. Roma Demgar, Félix Ndialbé, chef de file de l'opposition tchadienne, déplore ce comportement.
On avait 15 places pour 92 partis politiques. Donc, quel que soit le critère que nous mettrons en place, ça ne donnera pas satisfaction à 100%. Toutefois, le FONAC avait proposé déjà les deux noms et nous avons envoyé au président de la République.
Pour le rapporteur général de la coordination des partis politiques de l'opposition pour la défense de la Constitution, Iré Kertouma François, son regroupement ne se reconnaît pas dans la liste envoyée par le chef de file de l'opposition.
Mais c'est la dictature dans ce pays-là. Il y a des gens qui décident à notre place. S'il dépose une liste qu'il a concoctée avec qui on ne sait, ça l'engage. Il ne sait même pas pourquoi avoir peur d'une assemblée générale.
Le chef de file de l'opposition, Roma Dungar Félix Ndialbé, estime que les responsables des partis politiques de l'opposition qui s'agitent sont en mal de popularité.
L'ordonnance 40 dit en son article 7 que l'opposition est dirigée par un chef. Ces individus créent de l'amalgame. Mais moi, je ne peux pas dire qu'il y a une partie de l'opposition qui peut obliger le chef de l'opposition à organiser une assemblée générale.
Le politologue Dr Maoundounoudji Gilbert souligne pour sa part que l'enjeu principal de cette guéguerre est ailleurs.
L'enjeu principal, c'est parce qu'il y a des indemnités à percevoir là-bas. Admettons simplement qu'on supprime ces indemnités. Vous allez avoir une relation inverse entre l'engouement pour aller au CNDP et la véritable volonté d'aller y travailler. Or, quand on entre en politique, c'est d'abord un sacerdoce. Il faut aller parce qu'il y a des convictions, il y a des valeurs à défendre et aller pour servir le peuple, mais pas pour se servir. Et donc, cela m'attriste. En tant que citoyen, j'ai ma carte d'électeur pour sanctionner sévèrement ces genres d'opposants qui prétendent aller défendre les intérêts du peuple alors qu'ils le vont simplement pour défendre leurs propres intérêts.
Pendant que les responsables des partis politiques de l'opposition se bouffent le nez, la majorité présidentielle a déjà désigné ses 15 représentants par consensus. André Kodumbadjingar N'Djamena, VOA.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burkina Faso, les travaux du dialogue politique qui a duré une semaine se sont achevés hier avec la remise des conclusions au président Roch Marc Christian Kaboré. Parmi les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, un seul n'a pas fait l'objet d'un consensus. Bien que les membres de l'opposition et de la majorité aient dit leur satisfaction, l'analyste Siaka Koulibaly estime, lui, au micro de Bagassikoura, que les conclusions sont très vagues.
Effectivement, comme on l'a déjà souligné, le dialogue politique était devenu une société quasiment vitale pour le Burkina Faso en termes de création d'un contexte sociopolitique qui pourrait être favorable aux mesures dans le domaine de la sécurité et du front social notamment. Donc à ce titre-là, plusieurs acteurs avaient déjà demandé le dialogue politique qui permettrait donc de revisiter l'ensemble des points sur lesquels on pense qu'ils trouvent des blocages de nature. Les grands défis de l'heure, à savoir la sécurité et le front social dont on parle.
Qu'est-ce que les politiciens ont convenu de faire?
L'ensemble de l'agenda qui a été proposé s'articulait autour de deux axes. L'axe sécurité, la situation nationale, puis le dialogue social. On a vu que l'ensemble des points ont été effectivement abordés et que la plupart des points font l'objet de consensus. Ce qui signifie que, selon le règlement intérieur du dialogue, ces points qui font l'objet de consensus seront mis en application par les institutions, président du FASO, gouvernement et assemblée nationale. Il n'y a qu'un seul point qui ne fasse pas l'objet de consensus, c'est celui du document de vote. Parce que la carte consulaire biométrique n'a pas été retenue comme document de vote. Donc les autres points font l'objet d'accords politiques. on regarde le contenu des accords qui ont été passés, on se rend compte que la forme dans laquelle sont présentées ces mesures explique pourquoi il y a eu consensus. En ce sens, il n'y a pas vraiment d'engagement réel dans la forme des décisions qui sont prises. Il s'agit de projections souvent très lointaines, donc d'un objectif quantitatif. Et comme il n'y a pas d'objectif quantitatif qui est assorti à la décision, du coup, le gouvernement pourrait passer tout le temps à tourner autour de ces décisions-là sans présenter des résultats au final.
Concernant la sécurité, qui était un des gros points, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus?
Sur la sécurité, précisément, on appelle encore l'armée ou les forces de sécurité à agir dans le sens, par exemple, d'impliquer les populations dans leurs opérations, dans le sens de faire collaborer les populations, etc., etc. Donc, c'est des dispositions qui existent déjà en réalité dans le mode opératoire de l'armée. Et quand on revient là-dessus, c'est quasiment comme si on n'avait pas de nouveau à proposer. À mon sens, ici, il n'y a pas à proprement parler de décisions très concrètes en réalité concernant notamment le niveau de la sécurité.
Joint à Ouagadougou, l'analyste Siaka Koulibaly.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Cameroun, comment mieux se servir des centres de télécommunications d'opérations d'urgence et de surveillance? Les autorités tentent, avec leurs partenaires, de trouver une solution à cette préoccupation. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Parmi les défis à relever en matière de gestion des catastrophes au Cameroun, il y a la mise en fonction effective du Centre national d'opérations d'urgence. Fruit de la coopération sino-camerounaise, ce centre est situé dans le 4e arrondissement à Yaoundé.
C'est des structures qui sont très jolies, bien équipées, mais qui ne sont pas encore utilisées parce qu'il y a les procédures administratives pour les marchés.
Maria Touya, directrice de la protection civile.
On souhaitait qu'on voit dans quelle mesure on peut commencer à utiliser lors de la visite de ce centre. Nous avons été émerveillés de ce qu'on pouvait se connecter en temps réel avec les régions et nous l'avons expérimenté avec le centre des opérations d'urgence de Bafoussam.
À ce jour, toutes les 10 régions du pays ont été dotées de centres d'opérations d'urgence. Cependant, en cas de catastrophe grave, il arrive parfois que le réseau de télécommunications ou encore d'électricité soit complètement ou partiellement endommagé. Il faut alors faire usage des images satellitaires. Depuis 2009, le gouvernement a entrepris de former ses experts pour relever ce défi, avec comme principal partenaire ONU SPIDER, le programme des Nations Unies pour l'exploitation de l'information d'origine spatiale aux fins de gestion des catastrophes et des interventions d'urgence. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale.
Les experts camerounais doivent collaborer avec UN SPIDER, qui ont une très longue expérience. Si nous n'avons pas les mécanismes de prévention, nous serons toujours très en retard dans les repostes. Ça veut dire qu'il y aura davantage de victimes.
La semaine dernière, une vingtaine de structures locales concernées par la protection civile ont été sensibilisées sur l'exploitation des données spatiales dans la prévention des risques et de gestion des catastrophes par une délégation de ONU SPIDER.
Nous venons de vivre un glissement de terrain dans la Menoua il y a quelques jours. Les satellites notent souvent ce genre de début de déplacement.
Maria Touya, directrice de la protection civile.
Les vies que nous avons perdues du Hachan aurait pu être sauvé si on avait déjà cet outil qui nous permettrait de gérer les risques de catastrophe.
Une mission technique de ONU SPIDER a séjourné au Cameroun du 14 au 20 juillet dernier et a dressé un état des lieux de la collecte et de l'utilisation des données spatiales pour la prévention des risques de catastrophe. Dr Juan Carlos Villagrande de Leon, chef de bureau ONU SPIDER à Bonn, a fait partie de cette mission.
Nous voulons montrer comment un centre de télécommunication d'opérations d'urgence peut faciliter le travail commun des différentes agences gouvernementales et répondre aux besoins, que ce soit en termes de fourniture alimentaire, de l'eau pour les familles.
Au fil des années, des phénomènes tels que des émanations de gaz toxiques, des éruptions volcaniques, des glissements de terrain ainsi que de graves inondations ont été enregistrés au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook.
À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.